Amis de Radio Silence, bonjour. Depuis le temps que je vous ai promis de parler de la gouvernance, alors voici venu le moment d'en parler de façon plus, disons, on fait une étude de cas. Voilà, on va dire, on va en parler de façon plus pragmatique, de façon plus concrète, avec le cas de l'ENA qui est revenu sur le premier plan à l'occasion de la sortie du livre du vicomte Philippe de Villiers, ancien homme politique. Donc on a là quelque chose, on va dire un choix de première main et un témoignage historique qui nous a tout de suite interpellés. En tout cas, moi, il m'a parlé très très fort et je souhaitais en parler avec vous de façon à mieux cerner pourquoi nous sommes dirigés par des veaux. Excusez-moi, mais c'est le général qui l'avait dit. Donc, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. C'est le titre du livre de Philippe de Villiers qui raconte des choses très, très intéressantes, mais en particulier cette anecdote par laquelle il commence. Enfin, il insiste sur celle-ci en disant que le président, les présidents Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et Jacques Chirac étaient en quelque sorte des illettrés de l'histoire. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? C'est très, 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 très belle formule. Hein, il est très de l'histoire, mais c'est pas qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire de France, ils la connaissent très bien, mais tout simplement, ils s'en foutent. Alors, qu'est-ce que ces trois présidents ont en commun? Effectivement, c'est l'ENA. Ils ont sorti l'ENA, et plus que l'ENA, pour M. Giscard d'Estaing, je crois que c'est Polytech, ils sont sortis de grandes écoles. Alors, le procès de ces grandes écoles est un procès récurrent, qui fait partie de tout ce système de méritocratie, dit de méritocratie, parce qu'il faut bien préciser, car cette méritocratie fait problème. Donc cette méritocratie cachée, dissimulée, qui n'a plus cours dans une république, ce procès-là, on l'a fait, Madame Eva Joly en particulier, l'a saisie, et bon, il n'y a pas eu de suite, parce que voulez-vous, ce sont nos décideurs. Les décideurs appartiennent à ces écuries-là et on ne coupe pas, la chèvre ne peut pas couper l'herbe de son pied. Donc on continue une sorte de forme de lobby, on va l'appeler ainsi, qui est contrairement, je vais dire, qui est aux antipodes de ce que le général de Gaulle avait prévu. Qu'est-ce que le général de Gaulle avait prévu? Il avait prévu former des corps pour gérer l'État. Et à l'arrivée, ces corps-là, ils ne s'occupent pas de l'État. Ils deviennent des hommes politiques. Donc, premier problème qui a été posé, et je me réfère là à l'émission qui était très intéressante, intitulée « L'ENA, un État dans l'État », de la chaîne LCP, chaîne parlementaire publique. Donc, d'ailleurs, c'est assez étonnant en ce moment, ce sont les chaînes publiques qui font des émissions très intéressantes, et les privés, c'est pas du tout ça. On est plus dans le jeu et dans la distraction. Mais bon, c'est l'époque qui le veut ainsi. On ne va pas critiquer. Il faut bien vendre les cacahuètes. Donc, le fait que la première question qui arrive tout de suite, pourquoi les hommes politiques aujourd'hui qui n'ont pas eu la formation politique, on verra après pourquoi, s'occupent de politique alors qu'ils ont été formés pour gérer l'administration? Ce sont des fonctionnaires dans l'âme, des administrateurs si on le veut, mais de l'État. Au Royaume-Uni, on a rappelé, un débatteur de l'émission de la LCP a rappelé que c'était absolument incompatible d'être un haut fonctionnaire de l'État et de faire de la politique. Bon, chez nous, ça, c'est déjà pas clair. Et je crois savoir aussi qu'au Royaume-Uni, le mandat de parlementaire est un mandat unique. On ne cumule pas. Chez nous, on a encore ce problème-là. Mais passons. On est rentré dans la formation. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA? Intéressant, intéressante question. Il y avait une ancienne directrice de l'ENA qui a essayé effectivement d'expliquer comment elle a essayé de lutter contre, on ne va pas dire le vide, mais c'est un peu ça, le vide de la formation de l'ENA. Et elle a évoqué en particulier le vide de contenu réel, contenu... réel, oui, pragmatique. Elle se félicite d'ailleurs, elle, d'avoir été à l'origine d'une promotion qu'elle appelle la promotion Copernic, qui porte très bien son nom d'ailleurs. et qui s'est occupé de la réforme de l'État dans des sujets très très concrets, apparemment qui ne sont pas vus à l'ENA. Alors on apprend quoi à l'ENA? Des postures, essentiellement des postures comme celles qu'on a vues hein, récemment avec Madame Royal, qui nous parle du diesel et au nom de l'égalité, le prix du diesel devrait être le même que celui de l'essence. Et si on va plus loin dans cette logique, on devrait même dire que le diesel devrait coûter plus cher parce que plus polluant. Donc, ce sont des postures. Déjà, si on était dans un pays normal, c'est pas à la ministre d'annoncer ce genre de mesurettes, des choses qui auraient dû être d'ailleurs décidées depuis longtemps. Un directeur de cabinet, j'en sais rien, de département, suffisait bien cela. Mais l'ENA, c'est quoi? On y apprend des postures, on apprend à avoir réponse à tout. C'est pas moi qui le dis, c'est une jeune fille qui a écrit un livre qui était sur. C'est quoi son livre? La ferme des Énarques, quelque chose comme ça, qui a écrit un bouquin qui a l'air intéressant, et parce qu'elle est ancienne Énarque, une jeune fille qui a dit c'est l'école des postures, on a réponse à presque tout, mais en fait on espère de presque rien. Alors vous voyez un peu hein, comment nous sommes dirigés. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a eu Monsieur Hollande qui est quand même passé. Et qui nous a dit que oh, c'était vraiment une coïncidence si les gens qu'il nommait autour de lui étaient des énarques. En fait, ce n'est pas de sa faute, c'est probablement que c'est les seuls compétents ici en France. Et que voulez-vous, quand on a des réponses comme celle-ci, on s'est dit que l'ENA est vraiment une école de posture. Donc là, vous avez commencé à voir un peu hein, de quoi il s'agit avec notre école national d'administration qui est donc finalement un État dans l'État parce que il truste tous les cabinets ministériels. Et d'ailleurs, revenons au débat de la LCP qui s'est focalisée vraiment sur des questions, je vais dire, anecdotiques, mais qui ont le mérite de dire les choses. D'abord, la question de la vocation. Il y avait un journaliste du Figaro sur le plateau qui a estimé que la vocation, je crois lui-même ancien énarque, hein, on avait tendance comme ça à orienter les élèves de façon mécanique en fonction du classement. Vous étiez les meilleurs, c'est l'inspection des finances, vous savez, Alain Juppé, le meilleur d'entre nous. Monsieur Rocard, par exemple, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, je crois bien. Et ensuite, on descend, on va à la Cour des comptes, on va au Conseil d'État, on va, je sais plus, dans la diplomatie, comme Monsieur Jospin. Cette classification-là, pour le journaliste du Figaro, est plus ou moins arbitraire, enfin, pas arbitraire, mais elle ne tient pas compte de ce qu'il appelle la vocation. Alors, il y a des gens qui sont peut-être plus destinés à la diplomatie, il faudrait les laisser faire, et ceux qui sont plus destinés à la Cour des comptes, etc. Mais bon, ça, c'est un débat plus profond qui concerne ce que moi j'avais constaté ici, en faisant une formation, enfin, une formation, on va le dire comme ça, oui, citoyenne, dans un lycée. Ça concerne l'orientation des élèves en général. C'est une question de fond. Et il faudrait voir dans quelle mesure cela est applicable dans une France des rigidités. Ce journaliste a ajouté, pour M. Hollande en particulier et M. Chirac, que ce sont des gens qui sont sortis donc de l'école, ils sont allés à la Cour des comptes. La Cour des comptes, il faut savoir qu'on y travaille 20 heures par semaine hein, et qu'on est très bien payé, que c'est un corps prestigieux. Comment voulez-vous, à 22 ans, je ne sais pas à quelle heure ils sortent de l'ENA, à quel âge ils sortent de l'ENA? Ah oui, c'est même l'occasion de dire à quelle heure. On fait 20 minutes, on fait 20 minutes. 20 heures par semaine, tranquille. Et après, on se retrouve propulsé aux hautes fonctions où la charge de travail est immense. Donc déjà, à partir de là, c'est une école qui encourage une sorte dilettantisme, on va dire comme cela. Ça va être plus joli. Donc il y a ce problème-là. Que font les énarques pendant leurs études? Que font les énarques après leurs études? Ils font un stage. Apparemment, c'est le seul moment où ils sont au contact avec la vraie vie et où ils travaillent. Sinon, pour le reste, ils trustent dans les cabinets ministériels pour la plupart. Cela est plus un tremplin pour d'autres carrières, comme des carrières politiques, ça on l'a vu, via donc les partis qui sont devenus une collection des énarques et qui fournissent donc des élus, bien que il semblerait que ce ne soit pas la majorité des parlementaires. Mais bon, en France, on sait très bien qu'entre le Parlement et le gouvernement, comment dirais, la séparation est aussi fine que celle de l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc c'est du pareil au même. Entre autres, on arrive à, je veux dire, à partir de là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, c'est la demande du privé, la demande de ces énarques. Pourquoi ces énarques étaient tant courus par le privé? D'abord, parce qu'il faut savoir que c'est les mêmes qui dirigeaient les grandes sociétés. Et on voit les sociétés d'État, on ne peut pas ne pas parler de Air France. Ah oui, quand même. Ce qui se passe à Air France est un échec lamentable de la direction et de la gouvernance. Ça fait depuis 1994, si mes souvenirs sont bons, que Air France connaît des problèmes graves, que l'État a renfloué les caisses, mais que ça ne va toujours pas vraiment au niveau des finances et de l'activité elle-même, l'activité économique Air France. Bon, que ce qu'il faut dire de tout cela, c'est assez compliqué quand on sait que des gens comme Jean-Louis Messier, je crois, ça a été rappelé, ceux qui sont allés dans les grandes banques, Société Générale, vous savez très bien, Bernard Tapie, etc., ont aussi coulé la France par des impôts et des faillites monumentales. Donc pourquoi on court après ces gens-là? Tout simplement parce que, ayant été dans des grands cabinets, ils connaissent tous les rouages de l'État. C'est un peu une sorte de lobbying doublé d'une forme de délit d'initié. Mais en France, tout cela passe très très bien et personne ne s'en émeut. Tout cela pour dire quoi? Que au fond, les énarques n'ont aucune emprise avec la réalité, que les énarques sont tout sauf des experts, ce qui est très 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 grave. Et que les énarques sont là pour truster des postes et qui de l'État et ensuite du privé et puis des postes politiques. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont fait faillite partout, donc ils sont de moins en moins demandés, ce qui est très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que la promotion, la fameuse promotion dite Voltaire, part en retraite bientôt. Alors presque tous iront à la retraite, c'est un voltairien qui le dit. Et on sera peut-être ainsi débarrassé enfin du poids de cette promotion qui était dite heureuse, mais qui finalement a fait le malheur de la France. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire rapidement? Si vous avez vu France O, il y avait un reportage très intéressant sur la place de l'opium en Afghanistan. Apparemment, depuis que l'Amérique est en Afghanistan, c'est l'opium qui prospère et toute une classe d'Afghans drogués qui est carrément minée. Vous pouvez aussi voir la mafia en Italie et puis les yakuza au Japon. Bon, ce qui est intéressant à comprendre quand même, c'est que tout cet argent sale, si on peut dire ainsi, a servi beaucoup à redresser l'économie mondiale après la crise de 2008. Oui. L'argent de la prostitution, de la corruption, des paradis fiscaux, tous ces systèmes illégaux, la drogue, cet argent-là est en ce moment blanchi par nos dirigeants. Et là, ce n'est plus seulement l'énarchie qui est concernée, je ne vais pas les accuser de tout, mais c'est la gouvernance mondiale. Amis de Radio Silence, cette fois-ci, je vous dis à bientôt.